Bienvenue et merci d'être présents, présentes très nombreux chez Octave qui nous accueille très gentiment et très généreusement. Nous sommes le Conservatoire botanique national des Pyrénées-Midi-Pyrénées qui se situe dans le fond du Vallon de Salut. Beaucoup doivent le connaître. Ça fait partie de la douzaine de conservatoires nationaux en France. Il y en a 5 qui sont émergents, qui ont des missions de connaissance, de préservation et aussi plus spécifiquement de restauration ici au Conservatoire botanique et avec aussi la spécificité unique en France, c'est d'avoir un pôle ethnologie. Donc ce soir, c'est la deuxième table ronde ici chez Octave pour parler plus spécifiquement du programme Rocanature. Nous avions au mois d'avril déjà essayé donc cet exercice de la table ronde d'un échange, voilà tout simplement. C'était à l'usine à Tarbes pour parler plus spécifiquement de l'escalade, même si bien sûr tous les sports dits de nature sont concernés. Et donc à cet effet, nous avons des invités qui vont se présenter. Mais avant cela, peut-être il faudrait parler, Nadine, de ce qu'est ce programme Rocanature.
Oui, donc voilà, le programme Rocanature a débuté en 2019 au Conservatoire botanique. Il vise à concilier les activités, les sports de nature et la préservation de la biodiversité, de la flore. Pour ça, en fait, on a développé et on développe différentes actions, des actions de connaissances en allant sur le terrain avec les acteurs sportifs pour faire des diagnostics floristiques avec eux. On développe également des outils de communication. On intervient dans des formations auprès de fédérations sportives. On s'est intéressé rapidement à l'escalade, à la Via Ferrata par rapport aux falaises. Mais les milieux rocheux sont bien plus nombreux que les falaises. On pense aux éboulis, aux crêtes rocheuses, aux canyons. Et c'est sur ces milieux-là qu'on peut rencontrer également d'autres pratiquants, d'autres pratiques sportives.
Donc on va peut-être rappeler, tu es écologue, Nadine, donc ça veut dire ?
Ça veut dire, la bonne blague, écologue, botaniste, chargée de conservation, peut-être à plusieurs casquettes, en tout cas des missions finalement variées au sein d'un conservatoire botanique. En gros, mon travail, et surtout notamment à travers Rocanature, c'est vraiment de préserver en fait la flore et notamment les espèces les plus rares ou les milieux les plus fragiles, et ceci en fait avec les acteurs et les activités humaines.
Voilà. Et moi, je suis donc ethnologue et je m'intéresse plus spécifiquement aux humains qui, eux, s'intéressent ou sont en interaction avec le végétal. C'est un échange, effectivement une table ronde, et l'idée c'est vraiment d'offrir des points de vue différents dans un cadre bienveillant. Donc évidemment tout esprit de polémique est totalement exclu de cette enceinte. Les invités, vous allez vous présenter tout seul en quelques mots, ça va être plus simple. Allez, Patrice Bordère.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Patrice Bordère, donc j'ai 3 fois 20 ans hors taxe, donc ça veut dire que j'ai un peu d'expérience dans le milieu. Et ça fait 30 ans que je m'occupe de sport, mais notamment de VTT. Voilà, je suis de Lourdes, dans la vallée juste après l'Ocrup. Je suis quelqu'un qui a toujours œuvré pour les passerelles entre vallées. On en parlait tout à l'heure, mais pour vous dire que vu de l'étranger, les Hautes-Pyrénées, c'est une tête d'aiguille. Donc ça veut dire que quand vous voyez un petit peu les conflits d'intérêts qu'il y a entre les vallées, entre les communes, ça fait un petit peu rire beaucoup de gens. Et moi, j'ai toujours été un partisan, voilà, de réunir les compétences et de réunir aussi les gros projets, puisque on en parlera tout à l'heure. On est arrivé à faire des choses assez considérables avec des bénévoles et avec du bon sens.
Chloé Fourmiguet, Villa Campa.
Oui, bonjour. Moi, je suis cycliste, cycliste sur route, et à côté, je suis accompagnatrice en montagne aussi sur une activité secondaire.
Et donc, le VTT est une pratique loisir pour toi ?
Exactement. Le VTT, pratique loisir, pratique pour m'entraîner pour ma discipline principale, mais aussi pour m'aérer et loisir, grand plaisir.
Cathy Morgue ?
Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Cathy Morgue. Alors moi, je suis pratiquante de VTD depuis une trentaine d'années, mais surtout amoureuse de la nature et amoureuse des sports de nature. Donc j'ai pas mal de, j'allais dire, de cartes dans mon jeu. Et je pratique vraiment tout ce qui touche à la nature, en fait.
Edith Lafont.
Bonsoir à tous. Je suis donc une pratiquante maintenant occasionnelle de VTT. Et je suis sinon encadrante de canyon au sein de la Fédé de spéléologie. Donc le vélo, c'est moins mon quotidien, mais le VTT, j'adore ça quand même.
Maxime ouais. Delamarre.
C'est ça. Bonsoir, du coup Maxime, donc je suis ingénieur de formation et surtout moniteur guide VTT depuis 4 ans maintenant et depuis 2 ans à Bagnères, donc j'emmène des groupes à la journée ou sur plusieurs jours. Voilà, tout âge, tout pratiquant et donc après de mon temps libre je fais aussi beaucoup de sport de nature et de montagne en général.
Eh bien la première question elle va être assez simple mais elle peut nous emmener très loin. Qu'est-ce qui vous fait pédaler ? Chloé.
Principalement l'envie d'être dehors et de découvrir de nouveaux endroits, on pourrait dire ça, sur la pratique du VTT en tout cas.
Patrice.
Moi je fais du VTT essentiellement, un petit peu de vélo de route électrique, on va dire. Mais le VTT, ça a été d'abord une découverte par mes enfants. Dans un premier temps, mais après, ce qui me fait pédaler, c'est un peu ce que vous dites, mademoiselle, c'est que on a un terrain de jeu extraordinaire ici, avec des découvertes qui sont variées. Je veux dire que quand je parlais des vallées, mais les vallées sont différentes, et on peut profiter gratuitement en faisant du vélo de paysages naturels, de faune, de flore, de voilà. Et ce qui nous attire, c'est la nature dans un premier temps, quoi.
Je vais aller aussi dans ce sens, mais je mettrai aussi une similitude entre le VTT et le ski de rando. Dans ce sens où sur mon vélo, je me sens très libre de mon parcours en fait. À la montée, pas trop, mais quand on est en montagne, à la descente, il peut nous arriver de sortir des chemins parce qu'il y a un prix qui est devant nous et qui nous appelle en fait. Donc je suis désolée pour les petites bêtes, effectivement, sur lesquelles je roule, désolée Nadine, mais ça m'arrive de le faire, ouais. Alors je suis peut-être pas dans les clous, mais...
Et voilà, c'est une séance, on a le droit de dire des choses, voilà. C'est pas grave.
Eh ben je l'ai dit.
On va en parler. Edith, est-ce...
Alors pour le VTT, ce qui est un petit peu différent, en tout cas pour les autres activités que je pratique, c'est... le côté solo, c'est-à-dire que quand on est en canyon ou quand on est en escalade, on est en cordée, là, on prend son VTT, on part solo, un peu comme la course à pied finalement, et on peut prendre une bouffée d'oxygène et on n'a pas besoin d'appeler, ça s'organise un peu au dernier moment et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie.
La mécanique, on adore tous la mécanique.
Peut-être.
Non, je dirais que c'est pas faux. Non, ça nous permet en effet d'aller, et encore plus avec l'électrique maintenant, il peut y avoir de toutes les pratiques, on peut en faire par tous les temps. Il y a vraiment ce côté où on peut en faire partout, par tous les temps, on peut en faire à la campagne, sur des chemins un peu larges, on peut en faire en montagne, porter le vélo sur le dos. Voilà, chacun peut le faire un peu à sa façon. S'il pleut, s'il neige, on peut en faire.
Alors, il y a cet objet qui est très important, visiblement, pour tous les vététistes, eu égard aux discussions que j'ai pu avoir et aux entretiens avec certaines d'entre vous. Et parfois, ça confine presque à un objet très proche, un tiers quasiment. Je me tourne un petit peu vers toi, Chloé, parce que il y a eu comme ça un ou deux moments où tu as raconté en fait cette proximité avec cet objet le vélo. Qu'est-ce qu'il représente finalement dans la vie d'un vététiste?
Je sais pas si c'est tout le monde pareil, hein, mais après oui, je pense que quand on... quand on vit des aventures, parce que bah, les sorties VTT, moi j'ai l'impression que chaque sortie VTT peut s'assimiler presque à une aventure, bah, le VTT devient le compagnon d'aventure en fait. Et donc ouais, moi je le ressens comme ça en tout cas, je l'ai ressenti comme ça sur le premier VTT que j'ai eu, et quand il s'est cassé, ben en fait ouais, j'en étais vraiment très triste. Au-delà de l'aspect juste financier, c'est ben il va falloir passer à autre chose, il va falloir en trouver un autre et réfléchir à qu'est-ce qu'on veut et comment, et est-ce qu'il va être aussi bien que l'ancien.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Moi, mon vélo, il a 10 ans presque, et quand je monte dessus, ben, je suis toujours aussi contente. Moi, j'avais acheté un bon vélo, c'est vrai, mais je suis contente. Et quand je le répare, parce que c'est moi qui le répare, je suis pas passionnée de mécanique, mais bon, faut le faire aussi. Et ben, je suis contente parce que après, il va me redonner à nouveau le plaisir de pouvoir partir.
C'est pas facile de lâcher un vélo.
En fait, c'est vrai que il me faisait un peu peine dans le garage comme ça. Souvent, je lui parlais, je disais, ah, mon pauvre. Là, j'ai eu un petit garçon entre-temps, donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Et en fait, je voulais qu'il ait une seconde vie. Il a eu une vie avec moi parce que c'était un semi-rigide. C'était un vélo où, donc pour la petite histoire, il y avait tout suspendu pour faire du DH dans les stations. Avec un semi-rigide, on peut, moi c'était mon cas, mais bon, ça a ses limites. Et après, du coup, je faisais plutôt du cross-country avec. Donc, c'était un rythme assez sympa, et ça, c'était il y a quelques années. Du coup, après, c'était un vélo qui était plus adapté à ma pratique, et oui, il fallait qu'il ait une nouvelle vie. Et vraiment, j'avais un attachement à ce vélo, et je suis très heureuse qu'il ait trouvé une nouvelle famille.
Je crois qu'il y a une question ou un témoignage dans l'assistance.
Mais pour revenir sur le sujet de la faune, de la flore, moi je suis moniteur VTT, accompagnateur en montagne, donc je connais bien les différents sujets et surtout les différents types de pratiquants. Voilà. Donc eux, la nature, c'est ils sont là parce que le terrain, on est sur des spots outdoor, bien entendu. Mais allez pas leur parler de petites fleurs et de... Voilà, je veux essayer de recentrer un peu le débat sur ce que recherchent vraiment les pratiquants. Donc ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, et sur le fait aussi qu'on a des terrains ben, qui s'érodent, qu'il faut retravailler, qu'il faut entretenir également. Donc ça, c'est, je pense, un élément important.
Alors il y a des pratiquants, il n'y a pas les pratiquants, même s'il y a peut-être selon vous une majorité, et on ne l'espère pas, qui ne s'intéresse pas spécifiquement à la nature, mais effectivement il y a aussi une catégorie qui ne perçoit cette nature, dont on va parler un petit peu aussi, comme un décor, un paysage, un terrain de jeu, beaucoup, hein, c'est un mot qui revient très très fréquemment, le terrain de jeu. Et quand on dit terrain de jeu, ben, c'est vrai qu'il faut se questionner aussi sur ce que ça signifie, un terrain de jeu, comment on le conçoit. Alors d'ailleurs, il y a véritablement au sens propre du mot des bike parks maintenant, hein, qui sont quasi des parcs d'attractions de vélo. Est-ce qu'on peut parler en fait de cette différence de pratique aussi entre les bike parks qui se développent et les pratiques hors bike park? Quels sont vos sentiments sur l'existence?
Je prends la parole. Je vais rebondir sur ce que tu disais. Du coup, moi, je suis assez d'accord. C'est vrai que par rapport au public, justement, en VTT, en effet, une grosse partie du public n'est pas forcément intéressée par la nature. Mais par contre, on peut les intéresser, justement. Il y en a certains qui, moi, je trouve, s'y intéressent, notamment sur des séjours sur plusieurs jours. Des fois, on sent que quand on leur place des petits éléments, mais ils vont venir poser des questions au fil des jours. Alors, pas tous, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, des fois, ça marche, quoi.
Dans une de mes casquettes, j'ai créé il y a 8 ans une société qui s'appelle Bike & Bee, qui vit du vélo. Enfin, moi, j'en vis pas, mais ce sont des jeunes qu'on a embauchés. Et cette société, elle touche à, justement, c'est pour un peu nuancer ce que tu dis, Serge, là. C'est-à-dire que nous, on a toutes les clientèles, puisqu'on a 120 vélos de location, qui sont des vélos de route, des vélos de descente, des vélos d'enduro, des vélos de ville, et des vélos enfants. À partir de là, il y a eu un avant et un après Covid. Le Covid a amené des écoles et des enfants à organiser des groupes. Nous en sommes à peu près à en gros 500 enfants de différentes académies du Gers, de l'Aquitaine, qui sont venus pour faire des classes de VTT et de VTT nature. C'est-à-dire que dans une semaine, on loge, les derniers qu'on a logés, ils étaient 80, on les a logés pendant une semaine, on les a occupés pendant une semaine. Ils n'ont pas fait du VTT, des enfants, des classes pendant une semaine. Mais ils ont touché au bike park, ils ont touché à la nature, ils ont fait de la randonnée à pied et ils ont fait de la découverte botanique.
Chloé, tu pratiques le bike park ?
Non, j'y suis allée, j'ai testé, donc je sais ce que c'est, mais ça ne fait pas partie de mes pratiques. Ça n'a pas été ma porte d'entrée du VTT. Moi, je suis rentrée dans le VTT par la pratique de mon père, de mon grand-père, qui était plutôt en mode aventure, comme je disais. Le VTT, pour eux, c'était essayer de découvrir des nouveaux chemins, des nouveaux passages, passer d'une vallée à l'autre, faire des traversées sur plusieurs jours. Pour rebondir un petit peu sur ce que les gens attendent, c'est sûr il est probable qu'une grande partie des gens qui sont sur les bike parks n'aient pas la vision nature telle qu'on peut, la majorité des gens qui sont dans cette salle, probablement se l'imaginer. Mais est-ce que c'est pas justement à nous, acteurs du milieu de la montagne, du milieu du vélo, d'offrir justement une autre vision et d'essayer de faire en sorte que les gens ne se limitent pas justement au bike park en tant que parc d'attraction et peut-être juste en tant que porte d'entrée sur d'autres pratiques et sur de la découverte.
On parle beaucoup de nature hein, depuis tout à l'heure, on tourne autour. Maintenant, c'est quoi cette vision nature et qu'est-ce que la nature en fait ?
Si on se sert là du parallèle bike park et VTT, on peut dire VTT nature découverte, pour moi la nature ce serait un endroit où l'homme n'a pas, où a eu le moins d'impact possible, où il n'y a pas forcément d'aménagement ou un aménagement qui est limité. Je le verrais comme ça par rapport à la pratique du VTT.
Oui, tu abordes là Chloé, effectivement le concept d'aménagement, parce qu'on touche du doigt, hein, on parle de bike park. La pratique du VTT, on la réalise sur des sentiers, des pistes qui ont certainement aussi été aménagées, ou soit c'est, historiquement, les VTT sont passés là et ça s'est tracé plus ou moins naturellement. Entre guillemets, où justement il y a eu aussi à un moment une décision prise de dire on va faire une piste qui va un sentier VTT, on y en a hein, des ouvertures de sentiers VTT ou de pistes VTT, mais c'est vrai que là on touche du doigt aussi sur l'aménagement hein, Christelle des impacts, tu en parlais, et qui je pense sont différents effectivement. Mais sur certains aspects, ils se rejoignent, en tout cas sur l'impact pour au niveau de la végétation, de la flore, de certaines plantes. Alors c'est vrai que la différence, peut-être sur un bike park ou sur des aménagements qui sont assez conséquents, généralement ils sont accompagnés ces aménagements d'études d'incidence si on est en site Natura 2000, d'études d'impact ou différents niveaux d'études. Et donc là, il peut y avoir une anticipation de la prise en compte de la biodiversité. Ce qui est peut-être pas forcément, alors c'est une question hein, pas forcément aussi, ça reste ouvert, je veux dire, le cas peut-être sur des pistes, hein, puisqu'il n'y a pas véritablement d'aménagement, on passe à un endroit où on répète en fait le passage de VTT, où c'est des sentiers qui ont été utilisés pour la randonnée, mais qu'on utilise en plus maintenant avec le développement du VTT. Donc voilà un petit peu quelques mots aussi sur le côté impact par rapport aux aménagements.
Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des travaux sur les impacts ?
Donc des études sont réalisées, ça et là. Après, la difficulté, en fait, c'est de pouvoir vraiment mesurer réellement l'impact. Après, on sait de manière un peu globale quelques impacts. Alors, on a la dégradation ou la destruction par piétinement, ou plutôt, je ne sais pas comment on dit le piétinement avec des roues, je ne sais pas s'il y a un terme ou pas, mais par
l'écrasement.
L'écrasement.
Voilà, sur des, peut-être justement parler de sentiers, est-ce qu'on reste sur les sentiers ou pas? Voilà, ça c'est une des questions qui se posent. À travers l'érosion, on en parlait, je crois, tout à l'heure aussi, l'érosion, souvent c'est sur des pentes, enfin, en principe c'est sur des pentes fortes, sur lesquelles le sol déjà justement est sensible à l'arrachement et à la perte de sol, et donc du coup bah, de la végétation aussi, qui normalement habite hein, ces versants. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a différentes entrées.
On pourrait peut-être avoir un témoignage de Marc, libraire à Bagnères, avec qui nous discutions en préambule de cette table ronde, et qui avait un propos, un témoignage plus exactement, justement, sur sa pratique ancienne et actuelle de VTT.
Oui, donc moi je suis plutôt dans le même axe de pratique que les intervenants, donc je pratique pas sur les bike parks ou des, enfin j'y vais pour m'amuser, mais c'est pas ma pratique, c'est pas mon loisir. Et donc oui, à une époque dans le VTT de montagne, proprement dit, vraiment de montagne, haute montagne, bah, la descente elle se faisait un peu hors sentier forcément, enfin par où on pouvait passer quoi. Un peu pour se faire plaisir, un peu par nécessité. Après, ben, mettons sur Payol, ben, j'ai commencé à entendre parler que on était nombreux à passer par les estives. Et puis ben, je me suis dit non, c'est évidemment ma trace, elle est ma trace de freinage, elle va faire 2 mètres de long peut-être et 2 cm de large, mais on est nombreux. Et j'ai pensé à ces pédagogies qu'il y avait eu à une époque sur les dunes. Tout le monde jouait sur les dunes à mon âge, enfin quand on était petit, les années 70, tout le monde faisait des roulades sur les dunes, et puis après il y a eu des panneaux, ben non, on n'a pas le droit d'aller sur les dunes. Puis des panneaux d'explication pourquoi on ne pouvait pas aller sur les dunes. Et je crois qu'on est nombreux maintenant, la même pratique, disons. Le terrain peut accepter un certain nombre de pratiques un peu réellement outdoor. Et si on est nombreux, ben je crois que le respect des sentiers, le respect de certaines pistes, ça devient une nécessité, quoi. Si tout le monde coupe tous les sentiers, tous les trucs, des sans-chousses, un vélo pose vraiment pas de soucis. 10 vélos, ça commence, et puis 100 vélos, c'est la cata dans la forêt, quoi.
Et quel a été le déclic pour vous ?
Bon, c'est ne pas laisser de traces derrière soi. Enfin, voilà, c'est un respect. Voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, ça me plaît pas. Voilà.
Si je peux rajouter, pour aller dans ce sens, ce qui est organisé évite l'anarchie. C'est-à-dire autant on est dans la salle là, si on a autant de plaisir, si on a envie d'aller chercher une trace, chacun va la prendre et va tout détériorer. Alors que quand c'est organisé, c'est l'expérience qui vous parle, c'est-à-dire quand on organise, quand on balise les gens suivent des chemins et évitent les coupes. C'est-à-dire ce qui gêne, par exemple, moi je travaille avec l'ONF, ce qui gêne c'est surtout les coupes, l'eau dans la forêt, ce sont des gros problèmes, mais si on ne l'organise pas, avec des chemins balisés, les gens les prennent quand même. Vous ne pourrez pas empêcher de quelqu'un de monter à contresens, de partir dans un sens, c'est-à-dire que l'organisation elle a des vertus quand même. Des chemins.
Il faut peut-être préciser que au travers de Bike NP, donc votre structure, Patrice, à Lourdes, vous êtes mandaté, délégué pour vous occuper précisément du Pic du Gers, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Hein, on fait des réunions nous, de partage justement avec l'ONF, avec Terra Nova. On a quand même des gens qui respectent la nature. Quand on ouvre une piste, eh bien, on concerte. Par exemple, la dernière concertation, c'était sur la reproduction du cerf. C'est-à-dire avec les chasseurs, voilà, qui nous ont dit il ne faut pas ouvrir des pistes de ce secteur parce que c'est là que se reproduit le cerf. C'est quelque chose pour respecter un peu toutes les populations, on va dire, qui partagent la montagne ou la nature. Quoi. Voilà.
Alors le cerf ou le cerf, ça dépend. Il y a plusieurs écoles, hein. C'est comme le perfil.
Je ne suis pas chasseur. Hein.
c'est grand, ça se voit. Ils n'ont pas la même notoriété d'une certaine manière que la flore. Beaucoup plus discrète, un peu plus muette a priori. Et peut-être que c'est le moment justement aussi, Nadine, de nous donner quelques éléments d'information sur ces milieux rocheux et cette flore des milieux rocheux qu'on voit peu, a fortiori sur un vélo ou sur lesquelles on roule plutôt vite.
Les plantes des milieux rocheux, elles sont très discrètes, comme disait Christelle. Mais ce sont des plantes en fait qu'on retrouve pour la plupart d'entre elles nulle part ailleurs. Ce sont des plantes qui sont adaptées à un milieu ou à la roche où il n'y a pas de sol, où quand il ne pleut pas pendant des jours, il n'y a aucune rétention d'eau, donc peu de possibilités de prendre de l'eau. Elles subissent également de fortes chaleurs et à contrario une amplitude thermique, que ce soit même dans 24 heures ou à l'année. Donc on a vraiment des espèces un peu combattantes, voilà, qui survivent. Hein. On utilise souvent ce terme, des espèces qui survivent, qui sont adaptées. En tout cas, des espèces, des plantes qu'on retrouve, ça c'est vraiment, je pense qu'il y a une chose à retenir, qu'on retrouve nulle part ailleurs, et donc du coup, et qui ne peuvent pas en fait, parce qu'elles ne sont pas concurrentes, ou pas assez concurrentes, pas assez compétitives, pour s'installer juste à côté, par exemple sur la pelouse.
Donc à la fois fragile, mais extrêmement résistante aussi. À l'effort, donc il y a une petite homologie avec les sportifs là, hein. Donc elle mérite aussi d'être regardée. Est-ce qu'on a le temps de, qu'est-ce qu'on a le temps de percevoir sur un vélo? Des odeurs? Qu'est-ce qu'on voit?
Ça dépend si on est en montée ou en descente, déjà. Excusez-moi, ça me semble
évident.
Allez,
à la montée, alors.
Alors à la montée, on a le temps de beaucoup de choses. On a le temps de réfléchir, on a le temps de regarder, on a le temps d'admirer, on se pose des fois pour regarder soit effectivement une plante sur la vue, soit c'est plutôt on a du temps, plutôt contemplatif, j'allais dire. À la descente en revanche, je sais pas, je prends les descentes qui sont autour de Bagnères, hein, la Croix du Béliou, les Mircaudes et compagnie. Là pour la plupart, je pense qu'à l'instar des gens qui l'amènent, on n'est pas là pour la contemplation, on est effectivement là pour le plaisir du pilotage et de passer. Par contre, sur ces descentes-là, elles sont balisées et tous les pratiquants avec qui j'ai pu faire du VTT ne sortent pas de la trace, ne sortent pas du chemin. On n'a pas le temps de voir les fleurs, ça c'est sûr, ni les plantes, ni autres, mais par contre, on ne sort pas du chemin, quoi.
Sur les VTT, Maxime, dans les propositions que tu fais, donc guide VTT, il y a de plus en plus de demandes, d'offres et de demandes en VTT électrique, assistante électrique. Est-ce que ça change la donne du point de vue de la présence, un peu plus massive peut-être?
Ouais, déjà c'est à peu près 80% du travail, c'est en VTT électrique pour des accompagnateurs, en tout cas c'est c'est à peu près ça pour moi. Donc une grosse partie des gens qu'on emmène sont en électrique. L'électrique, il a cet avantage énorme de faciliter la tâche et donc de nous emmener plus haut, plus loin tant qu'on a de la batterie. Donc forcément, ça peut emmener plus de gens à des endroits auxquels ils ne pourraient pas accéder s'ils n'avaient pas cette assistance. Donc forcément, ça peut emmener plus de gens potentiellement sur un chemin qui était peut-être trop éloigné, trop difficile, avec une montée trop raide, donc les gens y allaient assez peu. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir l'assistance électrique, ça va emmener plus de personnes.
Plus de personnes sur plus de kilomètres.
Sur plus de kilomètres. Et après, voilà, bon, c'est ce que Patrice, hein, c'est ça. Ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait des chemins qui soient tracés, justement, ça va guider les pratiquants vers ces chemins qui vont beaucoup moins s'éparpiller partout. Et aussi, je voulais rebondir, du coup, il y a le fait que des chemins soient entretenus par des professionnels. Ça joue énormément. On voit la différence, en fait, des professionnels. Maintenant, le métier de bike patrol en bike park, mais qui est de shaper, en quelque sorte, des gens qui entretiennent les chemins de VTT. Là, autour de Bagnères, il y a 3 pistes qui ont été créées, justement, par une entreprise spécialisée. Et on voit que sur ces pistes, les écoulements d'eau, enfin, il y a eu des écoulements d'eau, tout est calculé pour pas que le chemin s'abîme et qu'il n'y ait pas de détérioration. Donc voilà, je voulais aussi dire ça, qu'il y avait une professionnalisation de ce métier et de l'entretien des chemins.
On parle aussi beaucoup justement de déconnexion, de performance, de terrain d'aventure. Et ça, c'était aussi, je me tourne vers toi Chloé, peut-être on peut parler quand même si on sait qu'il ne faut pas le faire, de hors-sentier, parce que ça, c'est aussi ce vers quoi parfois on est attiré.
Oui.
Oui, clairement. Je ne dis pas que tu fais du hors-sentier, mais qu'à certains moments, effectivement, dans cette pratique d'aventure, de découverte, on peut être attiré pour tracer, ouvrir des voies.
Ouais,
et que ça trace d'une certaine manière aussi.
Exactement. Je pense que quand on aime le VTT, on aime avant tout être dehors et tous les sports de plein air. Et tous les sports de plein air, en fait, en nature, on a besoin à un moment de se déplacer. On peut faire appel à de l'orientation et on a envie de sortir des chemins battus pour aller voir ailleurs, en fait. Je pense que quand on sort, on a envie d'aller voir quelque chose de nouveau. Et des fois, pour voir quelque chose de nouveau, il faut sortir du chemin. On a envie d'aller un peu plus loin, un peu plus haut. Donc oui, par moment, c'est sûr que ça fait partie du jeu. Enfin, ouais, ça fait partie du jeu et de la motivation que de sortir du chemin. Après, c'est sûr que si on prend la casquette, du coup, protection de l'environnement et prise de conscience, on limite un peu finalement maintenant cette envie-là de sortir du chemin. Et en tout cas, moi, c'est ce qui est un peu ressorti de notre entretien. Moi, je me posais pas trop la question avant l'entretien que j'ai eu du coup avec toi, Christelle. C'est vrai que pour moi, le VTT, c'était vraiment aventure, découverte et bon, ben voilà, s'il fallait traverser un champ pour aller voir comment c'était de l'autre côté, j'y allais. Et puis s'il fallait faire demi-tour parce que ça passait pas, on fait demi-tour et puis basta. Bon, ben en fait, quand je me suis rendu compte que bon, ben, en roulant, je pouvais passer sur une espèce qui était protégée, qui était potentiellement en voie de disparition, ah, ça fait réfléchir autrement. Et donc, des fois maintenant, on sort pas du chemin, on reste sur le chemin et puis c'est comme ça. Et ça fait partie du jeu après.
Et il n'y a pas de perte de plaisir pour autant.
Non, parce que le côté, justement, une fois qu'on a conscience que, en fait, en limitant, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que maintenant, quand je sors pas du chemin et que je me dis, je sais pourquoi je sors pas du chemin, je sais que je le fais pour quelque chose de bien et quelque chose qui me fait tout autant plaisir finalement que le plaisir que j'aurais pu avoir en sortant de ce chemin il y a quelque temps.
Edith, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver parfois, et est-ce que la culpabilité est présente quand tu fais du hors sentier, si ça arrive?
C'est arrivé à l'époque, oui. J'étais beaucoup plus jeune et j'avais pas forcément conscience de ce qui m'entourait en termes de nature, que ce soit en faune ou flore. C'est vrai que quand on est jeune, quand on a 20 ans, 25 ans, et puis après on s'approche et on se rend compte que on se dit bon, on commence à réfléchir en fait. Nos pratiques s'adaptent, mais on a une fougue au départ qui, en fait, on veut envoyer, on veut faire du sport, on veut se dépenser, on veut être dans l'action. Et c'est vrai que tout ce qui est autour, on est moins sensibilisé. Donc peut-être que au collège ou au lycée ou on n'était pas non plus. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de protection de la nature. Bon, après, je suis pas. Voilà, je suis des années 80. Mais bon, je veux dire, c'est pas quelque chose qui était dans les programmes des profs, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en entend plus parler. Et je trouve que peut-être grâce à ça, ça sera un levier qui permettra à nos jeunes de respecter cette nature.
Il y a cette fameuse phrase, on ne protège ou on aime que ce qu'on connaît. Et donc évidemment, si on n'a pas conscience peut-être de ces plantes qui sont sur ces dalles rocheuses sur lesquelles on roule, comment imaginer si on ne le sait pas qu'on est en train peut-être de la détruire.
Le vététiste, et moi j'appellerais ça le PDR, hein, le problème de riche, c'est-à-dire qu'ici la nature, on en a tellement qu'on est égoïste, quelque part. Si vous habitez le 9-3, le 9-2 ou la banlieue, certaines banlieues, la nature, vous savez pas trop ce qu'elle est, hein, je veux dire, hein, vous avez des HLM de tous les côtés. Tandis qu'ici, chez nous, on est tellement blasé, c'est-à-dire que vous soyez à Bagnères, que vous soyez à Argelès, que vous soyez à Lourdes, la nature, elle est avec nous, quoi, elle est tout le temps. Et on n'a pas été éduqué. Quand vous parlez d'éducation, je pense que c'est aux jeunes enfants qu'il faut aller éduquer, justement, qu'un chemin se respecte, qu'une fleur se cueille pas, qu'un arbre aussi se coupe pas.
Alors, il y a un outil qui peut être très utile pour la connaissance et pour se rendre compte, justement, du monde merveilleux du tout petit. Ça s'appelle une loupe de botaniste. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Vous en trouvez sur le marché de Bagnères, voilà, à pas cher du tout. Et on découvre tout un monde. Et là, on pense, je pense, les choses aussi un petit peu autrement.
Moi, j'ai envie qu'on réfléchisse un peu plus, mais peut-être pour une autre fois, mais à qu'est-ce qu'on fait de ces VTT électriques?
Qu'est-ce ah, mais tu n'as pas rebondi alors.
Je sais.
Ah, tu t'es retenue.
Et qu'est-ce qu'on peut avoir une étude sur les pratiques du VTT électrique? Et si on met en lien VTT, on va dire, maintenant on dit VTT du coup, c'est quoi? Non, musculaire, voilà. Pour un VTT normal, VTT musculaire et VTT électrique.
Parce ouais. que tu as le sentiment ou tu as de fait d'observation ou pourquoi tu...
Bah parce que c'est un sujet qu'on a abordé mais qu'on n'a pas poussé plus loin. Et du coup, je me dis que ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on considère que le VTT électrique rentre dans les pratiques de VTT classiques? Est-ce qu'on considère que le VTT électrique a plus ou moins d'impact que le VTT normal, si on est dans cette démarche-là de réfléchir à comment limiter l'impact sur l'environnement dans nos pratiques du VTT, qu'est-ce qu'il en est du VTT électrique?
Je vous laisse réfléchir. Nadine, est-ce que tu pourrais nous donner comme ça, comme une petite mélopée, le temps que des noms de plantes de milieu rocheux?
On a des saxifrages, alors je ne vais pas aller jusqu'aux espèces, mais des noms peut-être qui parlent aux uns et aux autres, des saxifrages, des androsaces, des petits gaillets, des orpins ou sédums, vous les connaissez peut-être dans vos jardinières, mais on les a dans les fissures, dans les dalles, cachés au creux d'un caillou.
Merci à Jean-Jacques qui est derrière moi, vous caché. Où est-il? Non, il est parti. Jean-Jacques, ah non, il est là-bas. Bon. D'avoir permis que l'on s'entende bien, j'espère, sur le fond et sur la forme, au sens propre et au sens figuré. Merci à vous d'avoir écouté attentivement et participé aussi. Grand merci encore chez Octave et à toute l'équipe qui nous a bien soutenus et accompagnés dans la mise en place de cette table ronde. Merci.